Je parlais du coronavirus, et ben malheureusement, je suis désolé, on va encore en parler, tant ça prend une place importante dans l'actualité en ce moment, bien entendu. Alors si vous souhaitiez que Tac Café soit une fenêtre d'ouverture et de respiration pour vous éloigner de ces sujets anxiogènes, on va continuer malheureusement un petit peu à en parler. Alors, première chose pour en parler, c'est quand même aussi te laisser un petit peu la place, Thomas, par rapport à la perception de l'arrivée de ce virus et surtout des conséquences telles que tu les vois là-bas à Seattle. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage de là où vous en êtes et de comment ça se perçoit, après j'allais dire, au quotidien pour vous?
Ouais, absolument. Alors, un truc à préciser, hein, je suis pas docteur, c'est juste l'observation d'un citoyen qui vit une situation qui est finalement pas très très originale, hein, parce qu'on est plus ou moins tous d'une façon ou d'une autre confinés. Mais ouais, avec plaisir. J'écoutais d'ailleurs avec intérêt la description de Pod la semaine dernière et de ce qui se passe du coup de l'autre côté de l'Amérique du Nord, sur la côte est.
Plus au nord.
Ouais, ouais, plus au nord, pas tant que ça d'ailleurs. Au passage, Seattle, c'est quand même pas si loin que ça par rapport en termes de latitude.
Je vais réviser ma géographie, je vais la regarder en même temps.
Mais donc ouais, non, pour... Alors en fait, nous, ça fait un mois quasiment aujourd'hui en fait qu'on est confiné, mais je ne sais pas si le terme confiné est particulièrement adapté, puisqu'en fait, les gens se sont d'eux-mêmes mis à télétravailler, se sont d'eux-mêmes mis à sortir progressivement les enfants de l'école avant même que les écoles ferment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, assez étonnamment, en fait, quand donc le virus et l'information du virus a commencé à être publique à Wuhan en particulier et en Chine de façon générale, on a eu très très rapidement en fait, un cas ici. Donc pas à Seattle même, mais un peu plus au nord, pas très loin de là où je suis. Et donc du coup, c'était donc une personne a priori qui avait voyagé en Chine et qui revenait. Donc à l'époque où on se disait finalement il n'y a que les gens qui ont voyagé en Chine ou les gens qui sont en contact avec des gens qui ont voyagé en Chine qui sont à risque. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque, c'était il y a 3 semaines. Donc voilà, donc on a eu un cas assez rapidement et donc du coup bah ça avait très très rapidement attiré l'attention de non seulement l'attention des personnes qui vivent ici, hein, des locaux, mais aussi une attention nationale. Et assez rapidement, Seattle est devenu un peu, c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui est utilisé un peu à tout craint, mais en gros on parle d'épicentre. Je sais pas si l'épicentre d'une pandémie qui change toutes les 2 semaines c'est vraiment adapté, mais en tout cas c'était là où on avait finalement le plus de cas, en particulier puisqu'il y a des personnes qui ont été affectées dans une maison de retraite en fait. Et donc comme tout le monde le sait, les personnes âgées sont pas les seules personnes à risque, mais restent quand même des personnes à risque. Donc du coup ça a été un carnage, puisqu'il y a 25 ou 30 personnes qui sont décédées en l'espace de quelques semaines, des pensionnaires de cette maison de retraite. Et donc du coup les gens ont tout de suite compris que d'une part, et c'était d'ailleurs, j'ai pas été super clair, mais c'est dans un second temps en fait, on a détecté ce cas chez cette personne qui est rentrée de Chine, et il s'est rien passé pendant 2 semaines, la personne a été hospitalisée et finalement c'est remise. Quelques semaines plus tard, en fait, c'est là où on a commencé à voir de plus en plus de cas dans la région. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas si on le saura un jour, mais bon, ce que les gens suspectent, c'est que d'une façon ou d'une autre, en fait, le virus s'est répandu dans la communauté, en fait, au sens large du terme, par l'intermédiaire de personnes qui étaient asymptomatiques ou avec des symptômes très, très légers. Et donc du coup, assez rapidement, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant, les gens se sont rendus compte qu'en fait, le virus était là et donc il fallait prendre des mesures. Les transports en commun se sont mis à être de plus en plus vides, les gens se sont mis à travailler de la maison et très rapidement, les écoles ont fermé, les universités ont fermé. Donc en fait, ce qui s'est passé à Seattle en particulier, c'est que finalement, les gens ont eu très très rapidement conscience de ce qui se passait et ont très rapidement pris des mesures avant le reste du pays. Et on pourra en parler un petit peu rapidement, parce que c'est clair qu'il y a quand même une grosse grosse disparité en fait entre ce qui se passe donc à Seattle, à San Francisco, à New York et par exemple dans des endroits comme la Géorgie ou la Louisiane aujourd'hui. Et même par rapport à la France, en fait, c'était assez étonnant. Je me rappelle, donc il y a maintenant 2 semaines, avoir appelé ma mère pour lui expliquer que c'était quelque chose de sérieux. Et à une époque où à la radio en France, on entendait la France ou les États-Unis, c'est pas la Chine. On peut pas forcer une population à rester chez elle comme ça et fermer les les commerces aussi facilement qu'en Chine. Bon, on voit ce qui se passe. C'est pas exactement la même ampleur que ce qui s'est passé à Wuhan, mais ça y ressemble quand même très fortement. Et
c'est quand même un confinement.
Voilà, c'est ça. Et si on avait dit encore une fois il y a 3 semaines, 1 mois en France que on aurait probablement une situation comme on l'a aujourd'hui, c'était quand même très très compliqué à accepter et à prédire. Et donc du coup, ouais, je me rappelle avoir parlé à ma mère pour lui expliquer. Il est probablement temps de faire des réserves et d'essayer de limiter les déplacements et de rester à la maison le plus possible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en l'espace de 3 jours, c'était non mais tu rigoles, enfin il y a pas de risque, c'est pas, on est à l'abri. Et en l'espace de 3 jours, bah finalement il y avait le confinement qui a été déclaré en France. Donc en fait, j'ai l'impression que la France a été a vécu en l'espace de une grosse semaine ce qu'on a vécu nous ici en l'espace de 3 semaines, 1 mois, quoi. En termes de progression de la prise de conscience d'une certaine mesure, et puis après la mise en place des mesures de confinement.
Du coup, tu trouves que la réaction là-bas, elle est comment? Elle est appropriée selon toi? Comment ça se passe au niveau des services de santé, des hôpitaux?
Alors il y a plein de nuances en fait sur la façon dont la situation est perçue. En fait. Alors, par où je commence? en gros, quand t'es à la maison, quand on est à la maison, parce que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, même l'essentiel d'entre nous, finalement, c'est pas trop, trop compliqué. Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir un jardin, d'avoir un peu de place, donc je fais partie des privilégiés. Et c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse différence entre les gens qui sont un peu les uns sur les autres dans un appartement, par exemple, ou qui n'ont pas la possibilité de sortir, et puis des gens qui ont un peu de place. Mais globalement, finalement, la situation, elle est globalement assez supportable, dans une certaine mesure, pour l'instant. On en reparlera si ça dure 8 semaines de plus. Mais pour l'instant, la situation est assez, assez supportable. Par contre, ce qui se passe, c'est que, assez rapidement, les hôpitaux ont été débordés, en fait. Et quand il y a 50, 75%, 100% d'influence en plus, à l'échelle d'une société, quand tout le monde est à la maison, finalement, ça se voit pas des masses. Mais quand t'es sur le pied de guerre à l'hôpital, je pense que les médecins, les infirmières, eux, s'en rendent compte, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe à Seattle, c'est ça. C'est que globalement, la ville vit au ralenti, comme beaucoup de grandes villes dans le monde. Par contre, les hôpitaux sont complètement débordés et on fait un peu comme en France maintenant. On ouvre des hôpitaux de campagne. Le stade de Seattle a été réquisitionné pour le transformer en hôpital par l'armée. Enfin, on voit des choses qui sont limite dignes d'un film catastrophe, en fait. Ça, c'est la situation à Seattle, et c'est là où je parle de nuances. Alors bon, si vous suivez un peu l'actualité, on parle beaucoup de New York en ce moment. New York, je pense que pour le coup, eux, c'est pareil, ils ont rattrapé entre guillemets l'avance ou le retard, ça dépend comment on voit les choses de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de cas à New York, probablement. Ça va probablement être une catastrophe sanitaire, faut dire ce qui est, même en dépit de toutes les mesures qui sont prises. Mais à côté de ça, on a tout un tas d'endroits aux États-Unis, c'est un grand pays, où les choses sont un peu distantes. Tu vois, tu regardes la télé et tu vois des choses qui se passent, mais tu te dis c'est à New York, c'est à Seattle, c'est à Los Angeles, moi je suis à Détroit ou à Chicago. Entre guillemets, ouais, c'est ça, on est à l'abri. De la même façon que quand tu vois des nouvelles en Chine, quand tu es à Paris, tu te dis bon, ok, le monde est connecté. Etc, etc, mais ça reste loin, quoi. Et il y a un petit peu cet effet-là qui se passe au niveau du pays. Et puis après, on vit une époque, comme vous le savez, qui est quand même extrêmement polarisée, avec une grosse minorité, qui supporte le président en place, et une majorité qui est clairement, viscéralement opposée à tout ce qu'il peut dire et faire. Et donc du coup, ça aussi, ça se manifeste quand il s'agit de ressentir la crise. Et on voit que, par exemple, je crois que c'est dans l'Oklahoma, le gouverneur de l'Oklahoma qui a été pris en photo, donc c'était il y a 2 semaines maintenant, mais c'était quand même, c'était déjà la crise à l'époque, qui a été pris en photo dans un restaurant en disant faut que les gens continuent à sortir, faut continuer à supporter les business locaux, etc., etc. Faut pas laisser l'économie être paralysée par la crise. Donc c'est un peu l'espèce de dissonance, alors que nous, ça faisait déjà des semaines qu'on était enfermés à la maison sans sortir. Donc c'est un petit peu la dissonance d'un endroit à un autre. J'entendais des témoignages aussi de gens à la Nouvelle-Orléans qui continuent à jouer au basket, à faire des sports collectifs en extérieur, par exemple, alors que ça, c'est clairement ce genre de choses qu'on voit plus du tout ici, quoi. Donc il y a quand même une différence en fait à l'échelle du pays, et il y a des, comment dire, c'est presque un retard en fait. Ce qui se passe aujourd'hui à Seattle ou ce qui se passe aujourd'hui à New York, ça va se passer dans 2-3 semaines à Chicago. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, ben, c'est quand même suffisamment virtuel en fait pour que les gens se disent bah non, j'ai pas besoin de changer mes activités. Et puis un truc aussi à ajouter, c'est vrai que Guillaume tout à l'heure dressait un peu le portrait de la société américaine qui est une société bah, avec beaucoup de risques en fait par rapport à cette exposition au virus, et c'est complètement vrai. Une petite correction sur ce que tu disais qu'il n'y avait pas d'assurance chômage, c'est pas vrai, il y a deux mois de chômage quand tu perds ton boulot en fonction de certaines situations, donc ça a évidemment absolument rien à voir avec ce qu'on peut connaître en France ou même dans la plupart des pays d'Europe occidentale, ou même au Canada d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça a été élargi à 3 mois, donc maintenant on a 3 mois de chômage, je crois que c'est 60% de son salaire quand on se fait virer. Mmh.
Et puis il y a le fameux stimulus, non ? Il y a quand même les 2000 milliards là, qui ont été injectés, qui vont aussi revenir directement aux gens pour les soutenir.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, ouais, c'est complètement sans précédent en termes de montant. Je crois que c'est 2,2 ou 2,3 milliards de dollars. Mais on sait aussi que... Enfin, pardon, pas milliards, milliers de milliards de dollars. Donc c'est énormément d'argent, mais on sait que malgré tout, bah, étant donné l'ampleur de la crise, ça suffira pas pour relancer l'économie de façon pérenne. Je pense qu'il y aura encore besoin d'avoir pas forcément que de l'argent, mais des ajustements à venir. Et un truc qui, enfin, nous au boulot, on regarde de près et puis qui quand même assez fascinant. Rendez-vous compte, la semaine dernière, on a annoncé 2,3 millions de nouveaux chômeurs en l'espace d'une semaine. Donc, on est un grand pays. Il y a 350 ou 330 millions d'habitants, je crois, quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est quand même au plus fort de la crise de 2008, donc qui était la dernière crise économique en date, on avait, je crois, en une semaine 650 000 nouveaux chômeurs, quelque chose comme ça. Donc là, rien qu'en l'espace d'une semaine, on a déjà fait, je fais le calcul de tête, c'est quoi ? C'est 5 fois plus, 4 fois plus. Donc voilà, donc c'est quand même une situation qui est assez incroyable. Et c'est vrai que bah ouais, les gens pour l'instant restent tranquilles entre guillemets, mais moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on fait si on doit continuer 6 à 8 semaines de plus, ce qui n'est pas garanti, mais ce qui n'est pas complètement impossible.
Ah, ça, on perd tous pied hein, quand on essaye de mesurer un petit peu les conséquences de ces événements-là. Il y a Ben de Niptech qui a eu une formule qui, moi, m'est restée marquée pour décrire un petit peu ce qui se passait et ce qu'on pouvait vivre dans ces moments-là. Il a décrit ça comme étant un crash en slow motion. Et j'ai trouvé ça très puissant comme image parce qu'il y a ce côté inexorable, voire tu te dis peut-être que ça va jamais nous arriver. Et pourtant, ça arrive. Ça arrive de manière très puissante, mais très, très très lente, et du coup j'arrive à avoir moi comme vision le fait c'est difficile de reprocher, tu parlais tout à l'heure des personnes qui continuaient à avoir des activités, etc. J'en arrive presque à même pas en vouloir, à pouvoir en vouloir à ces gens-là. Alors au bout d'un moment, quand t'es éclairé, quand on te donne des règles, quand on te donne un cadre à respecter, on peut comprendre, mais c'est tellement inédit par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre dans nos sociétés que je sais pas si on peut blâmer quelqu'un, que ce soit une entité, une personne, en tout cas à l'heure actuelle. Après, a posteriori, on pourra tirer des analyses.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, bah, c'est un peu ce que je me dis à chaque fois qu'on entend parler. Donc j'ai entendu là qu'il y avait les premières comparutions de personnes qui se sont retrouvées à... contrôler plusieurs fois dehors sans avoir la bonne attestation en France.
Ouais, là, faut pas dégager.
Comment ?
Ouais. Non, faut pas exagérer au bout d'un moment.
Bah, ouais, d'un côté, oui. Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la règle s'applique à tous. Donc, finalement, si tu la respectes pas, eh ben, il faut assumer les conséquences. Mais en même temps, quand tu prends du recul, tu te dis, bah, ouais, mais c'est compliqué, en fait, de demander aux gens de. C'est facile de demander aux gens, je pense, de rester enfermés pendant une semaine. Mais 8 semaines plus tard, je pense que ça va être compliqué. Donc, il faut que la société soit aussi un petit peu. Compréhensif de la situation et tu vois nous ici comme je te dis donc ça fait un mois qu'on travaille de la maison et qu'on sort je sais pas une fois tous les deux jours ou un truc comme ça, mais finalement il y a aucun policier dehors qui va m'arrêter pour me demander une attestation, puis bon je suis un peu en zone pavillonnaire donc finalement il y a quand même pas grand monde autour de moi, mais je suis content d'avoir je suis très très fier et très très appliqué du respect des consignes, c'est-à-dire ne pas prendre les transports en commun, limiter les interactions avec les gens, ne pas me retrouver avec un groupe de plus de personnes, etc. Mais en même temps, j'ai aussi envie de pouvoir continuer à faire mon footing le matin, j'ai aussi envie de pouvoir continuer à sortir prendre l'air une heure par jour, etc., etc. Donc c'est, je pense qu'il faut, il faut que ces contraintes soient globalement suffisamment, suffisamment supportables pour la société, en fait. Parce que sinon, ça va pas marcher. C'est pas seulement moi, mais je me dis que les gens avec des enfants, et il y a des gens qui sont beaucoup plus, qui sont peut-être moins capables de respecter ces contraintes-là que moi, et du coup il faut aussi se rendre compte que bah on demande un peu l'impossible. Faut pas qu'on demande l'impossible à une société, parce que sinon ça marchera pas, en fait.
Ouais, mais c'est une situation tellement extrême. Tu vois, tu parles du footing. Au début, je m'étais dit, je vais aller faire du sport. Je me suis ravisé en me rendant compte que le fait de faire du sport, potentiellement, c'est aussi ça qui peut, si jamais il t'arrive un souci, si jamais t'as besoin d'être pris en charge, ouais, par les hôpitaux, bah, peut t'amener à encore saturer un peu plus. Bon, c'est très compliqué. Je crois qu'encore une fois, on peut en vouloir à personne. Il faut juste faire preuve de recul et d'intelligence. Et puis, quand même, un minimum, je pense que le mieux, c'est quand même de suivre les règles. C'est aussi ce qui aide à fonctionner en société sur ces sujets.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Merci beaucoup en tout cas pour ton petit témoignage. Évidemment, tu restes avec nous, tu continues à critiquer, à argumenter les éléments tech qu'on va continuer à dérouler ensemble, parce que l'actu est quand même forte à ce sujet, à commencer déjà par la grogne chez Amazon aux États-Unis. C'est tout récent là, depuis lundi, mais on a carrément des employés qui commencent à, et c'est pas courant, hein, à prendre la parole en manifestant devant Amazon, en disant que le nécessaire avait pas été fait. Un compte Twitter qui s'est lancé là, qui s'appelle Shutdown Amazon, qui dit: des personnes testées positives travaillent dans ce bâtiment et transmettent le virus à des centaines d'autres. Évidemment, Amazon qui se défend, hein, en disant que les accusations sont infondées, qu'ils ont pris des mesures extrêmes pour assurer la sécurité des personnes, et qui font un nettoyage en profondeur trois fois plus souvent que d'habitude. Bon, bah, il suffisait effectivement de nettoyer trois fois plus que d'habitude. C'est difficile, hein, de se défendre dans ces situations-là. Et puis après, on a d'autres acteurs qui prennent les choses de manière peut-être un petit peu plus constructive, comme Snapchat par exemple, qui a une initiative assez sympa, Guillaume. Enfin, qui paraît sympa,
oui,
en tout cas.
Mais je voulais revenir sur Amazon aussi, parce que Amazon, si tu veux, il est un petit peu contre-exemplaire sur les sur l'information qui circule et tout ça, quoi. Disons que les employés des entrepôts, ils sont pas prévenus s'il y a des malades. Et c'est vrai qu'il manque un petit peu de tout, quoi. Il manque de gel hydroalcoolique, il manque de masques, il manque de tout, un petit peu comme tout le monde. Mais le fait que les employés d'Amazon ne soient pas contents, on peut aussi le comprendre. Et d'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle Chris Smalls, excusez-moi, qui donc à New York a fait la grève, enfin a été pilier de grève, et donc a meuté quelques autres employés pour faire une petite manifestation. Et il s'est fait virer. Chris Smalls s'est fait virer explicitement pour ça. Et en fait, aux États-Unis, si tu veux, quand tu commences à critiquer ton employeur, ça marche pas très très bien. J'ai lu qu'il y avait aussi du personnel de santé qui commençait à tweeter sur le manque de matériel, sur le manque de préparation, de moyens, et qui avait été menacé d'être viré aussi sec, quoi. Donc il y a aussi, c'est pas très... C'est pas bisounours, quoi. C'est vraiment, tu l'ouvres pas si on te dit de pas l'ouvrir, quoi. Donc c'est évidemment c'est différent ici, mais voilà, il faut qu'il y ait quand même peut-être le mentionner.
Ouais, absolument.
Ouais, ouais, absolument.
Ouais. Je suppose que toi-même, tu connais bien ça. Je suppose qu'il y a des contrats qui sont très très forts de non-disclosure. Ils sont quand même extrêmement forts aux États-Unis. Et bon, tu risques toujours.
Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend d'un endroit à un autre. Ça dépend forcément d'une société à une autre. Comme tu dis, Amazon est un peu coutumier du fait. Hein. Les gens qui travaillent dans les fulfillment centers, les grands entrepôts, c'est clairement pas une situation toujours enviable. Et on n'est pas forcément très très bien traité en tant qu'employé, c'est sûr. Et puis bon, je pense que le truc, c'est que Amazon ici est quand même un petit peu au centre, en fait, de tout ça, parce que les gens continuent à consommer dans une certaine mesure, mais ont aussi besoin de pouvoir consommer, de pouvoir acheter de la nourriture ou même des biens utiles. Je sais pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire.
De première nécessité.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Merci, Guillaume. et c'est vrai que finalement, Amazon et Walmart en ce moment sont... donc Walmart, qui est l'équivalent d'un Carrefour un petit peu, mais qui fait aussi beaucoup de ventes en ligne, sont presque essentiels, en fait, pour un fonctionnement globalement normal de la société. Et c'est vrai que bah, pour continuer à fonctionner normalement, bah, ils ont besoin de continuer à avoir des gens qui vont travailler dans les entrepôts. Et ces gens-là, malheureusement, sont exposés et, à mon avis, clairement, ne disposent pas des bonnes protections. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi en France. Mais c'est vrai qu'Amazon, c'est un peu le grand employer. Je crois qu'ils ont annoncé 100 000 recrutements justement suite à cette crise-là. Donc ça donne un petit peu une idée des enjeux en fait, et en termes de personnes et en termes d'employés, quoi.
Oui, effectivement. Bah, encore faut-il pouvoir recruter 100 000 personnes dans cette période-là. Quoi, mais... Bon, écoute, on va essayer d'être un petit peu plus léger avec un petit tunnel de news comme ça sur les applications, tout ça. On va parler de l'application réseau social cartographique Zenly, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant cette news. Ça appartient à Snapchat depuis quelques temps et ils font un challenge confinement. C'est un tableau de score entre amis pour gagner. Bah, c'est facile, il suffit de rester le maximum chez toi. Donc, gros, c'est quand même marrant. Et puis, bon, ouais, c'est vrai que ça encourage quand même au confinement. C'est des petites initiatives sympas. Et puis bon, croyez-le ou non, mais InfoWars était toujours présent sur le Play Store, alors que YouTube et Apple ont viré ce clown d'Alex Jones depuis 2018. La goutte d'eau pour Google, ça a été une vidéo où ils remettaient en question le confinement et la distanciation sociale pour freiner la propagation du virus. Donc ils ont fini par le virer. Enfin, c'est pas trop tôt, hein, parce que c'est vrai que la désinformation, ça y va en ce moment. À tel point que Snopes, qui est un site spécialisé dans le fact-checking, mais qui fait aussi des news, est complètement en surchauffe. Bon, ils sont une petite équipe, en fait, hein, qui a les mêmes problèmes que tout le monde. Bref, Snopes est contraint de réduire la production. Et toutes les plateformes, pourtant, voient leur trafic exploser. Azure a connu un boom de 751%, par exemple. Mais bon, c'est pas évident, donc il y a peut-être des petits trucs qui coincent, mais ils comptent se dimensionner rapidement, donc ça posera pas trop de soucis. Et Facebook aussi, d'ailleurs, hein, c'est pas la fête, hein, parce qu'il y a une explosion des usages, c'est vrai, mais c'est surtout de la messagerie et de la vidéo, et ça lui rapporte absolument rien. Donc la consommation chute en plus pendant ce temps. Donc voilà, il doit toujours lutter contre les infox, évidemment, comme Twitter et tous les autres. Et donc c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sites internet intéressants, on peut aussi parler de COVIDnet, qui est une émanation de GripNet, donc c'est la même adresse en fait. C'est le réseau de surveillance de la grippe saisonnière, GripNet. Et c'est un simple questionnaire en ligne, hein, qui collecte directement auprès de la population des données épidémiologiques, des symptômes grippaux, et donc là, en l'occurrence, des symptômes grippaux du Covid. Alors évidemment, c'est anonyme, et même si vous n'avez pas de symptômes, bah, c'est bien de le dire aussi, parce que ça permet d'avoir une idée de la proportion des personnes infectées. Et donc il est aussi question d'ailleurs de comportement individuel, du vécu du confinement, du nombre de sorties, etc. Donc c'est un questionnaire pour mieux connaître le virus, hein. Les données, c'est toujours bon à prendre.